Bonsoir à tous et bienvenue à l'écoute de ce dernier numéro d'Alter Echo pour l'an 2002. Olivier au micro, en studio Nicolas, Nico et plutôt et au téléphone Nicolas, vous les entendrez. Alter Echo, vous le savez, c'est le mercredi soir en direct sur Radio Campus 107.2 à 22h, rediffusion de la même émission à 14h le vendredi, toujours sur Radio Campus, et puis nouvelle rediffusion le mardi matin sur Radio Panique 105.4, enfin le site internet www.collectif.net/Alter Echo en un seul mot et avec CH. Pour cette dernière émission, comme je vous le disais, nous aurons tout d'abord au téléphone en direct Nicolas Willems de Paris, cette fois-ci, ce n'est plus de Montréal. Ensuite, je vous ferai écouter une interview de Geoffrey Goens, que nous avons déjà entendu dans cette émission, un spécialiste média très critique qui sort un et même bientôt deux livres, dont le premier pour les fêtes. Je vous parlerai encore d'une ou deux petites broutilles et puis Nico vous fera un medley spécial Noël de sa composition. On vous retrouve après le générique. Bonsoir Nico.
Bonsoir Olivier, bonsoir chers auditeurs.
Bonsoir Nicolas.
Bonsoir chers amis et bonsoir chers auditeurs.
Il est au rendez-vous, c'est formidable. Alors en direct de Paris cette fois-ci.
C'est vrai, j'ai voyagé là à New York, Bruxelles, Paris. Ben là je reste là pour quelques semaines, un petit peu observer ce qui se passe dans les murs de la grande maison Radio France.
Et qu'est-ce qui se passe à Paris? On prépare aussi les fêtes de Noël?
On prépare aussi les fêtes de Noël et... Il y a plein de monde, Galerie Lafayette, il y a parfois des menaces d'attentats, donc du coup les gens ont un peu peur, et puis voilà, la vie va comme partout ailleurs.
Bien, qu'est-ce que tu nous racontes cette semaine,
bah oui,
Nicolas ?
Mais justement, on parle un peu d'attentats, et puis bon, la raison pour laquelle apparemment Bush voudrait attaquer l'Irak, c'est toujours cette fameuse idée de terrorisme, on n'en a toujours pas la preuve. Il y a eu une manifestation à Paris samedi dernier contre une éventuelle intervention en Irak. La police disait qu'il y avait 5000 manifestants. Pour les manifestants, ils étaient plus de 15 000, si pas 20 000. Comme toutes les manifestations, elle a démarré à 15 heures, donc place de la République, donc pour se terminer sur les grands boulevards. À la tête de la manifestation, j'ai assisté à une sorte de petite échauffourée où Chevènement était là, l'ancien donc ministre de l'Intérieur, l'ami ou l'ennemi des Sauvageons, l'homme qui a fait quelques mois de coma et qui en est sorti encore plus fou que d'habitude. Et cet homme, lui était en première ligne pour se dire tout à fait opposé à la guerre en Irak. Il a été insulté par des manifestants.
Cela dit, on peut se souvenir que Jean-Pierre Chevènement était le seul politicien français et peut-être même européen à avoir assumé ses responsabilités au moment de la première guerre du Golfe, à savoir qu'il était ministre, je crois, de la Défense, mais je suis pas sûr, et qu'il avait démissionné pour protester contre cette guerre.
Du gouvernement Mitterrand, oui. C'est ce qu'il s'est empressé de dire aux manifestants. En arguant et en étant très fier qu'il avait toujours été opposé à quelle que soit comme frappe américaine ou alliée en Irak. Et puis les manifestants n'avaient quand même pas envie de voir d'hommes politiques un peu récupérer la couverture dans ce genre de cortège. Vous écouterez dans deux semaines les sons. J'ai justement pris quelques sons et je l'ai interviewé là-dessus aussi. Vous verrez qu'il avait l'air un peu déconcerté que je lui demande s'il se rendait compte qu'il dérangeait les gens plus qu'autre chose là-bas. Et donc, en définitive, il y avait plus de 15 à 20 000 personnes avec la LCR, différents syndicats, avec entre autres le collectif américain Not In Our Name, qui a maintenant une antenne française qui s'appelle Pas En Notre Nom, dont le site est pas trop mal foutu, c'est pasennotrenom.org. Bonsoir. Et en définitive... à la première ligne, on trouvait les hommes politiques et puis le collectif Pas En Notre Nom. Entre autres, par rapport à ce collectif, il y a l'équipe de New York qui arrive demain faire une conférence de presse dans le théâtre des Champs-Élysées, justement pour remercier les Français de leur soutien à l'opposition à la guerre en Irak. Et puis, comme toute bonne manifestation aux États-Unis, ben, on n'en a pas beaucoup parlé ici en France. Il y a eu quelques mots dans les journaux et les flashs de Radio France. On n'en a quasiment pas parlé ni sur Europe 1 ni RTL. Alors, la presse écrite, là, c'est encore plus désastreux. Même le journal du dimanche, le lendemain, n'en a rien fait. Le Monde, qui paraissait le lundi midi, n'a rien dit. Le Libération, qui paraissait le lundi matin, n'en a rien dit. Même pas un entrefilet. Et puis, quant à la couverture télé, ben, ça a été des images commentées, surtout sur France 3, un petit peu sur France 2, et TF1 n'en a absolument pas tenu rigueur, préférant nettement plus se braquer sur le problème numéro 1 pour l'instant en France, c'est la sécurité routière. Donc voilà, une belle manifestation, il n'y a finalement pas qu'aux États-Unis qu'on ne parle pas de ce genre de manifestation, et puis il faut quand même dire que la seule dépêche AFP qui est parue là-dessus, qui est parue aux alentours de 18h samedi, ne mentionnait que 5000 manifestants, sans rappeler que c'était le chiffre de la police.
Ouais, bah, effectivement, il y a toujours une petite divergence entre les chiffres, entre les différents chiffres. En tout cas, apparemment, on n'en parle nulle part, mais dans Alter Echo, on en aura parlé, et à travers la bouche de notre spécialiste du pacifisme anti-Bush, Nicolas.
Je ne sais pas si vous avez entendu, il y avait un aspirateur derrière, mais c'était un aspirateur de Radio France, quand même.
Et à qui tu disais bonjour?
Ben justement, monsieur qui
à l'aspireuse.
Voilà, comme ça.
D'accord.
Vous savez.
Quel billet d'ambiance, on s'y croirait.
Billet vraiment complètement.
Tout à fait.
Voilà, les couloirs de Radio France à 22h, un mercredi soir.
Oui. Bon, on va pas te coucher trop tard, Nico.
Non, il n'y a pas de problème.
Eh bien, merci pour cette petite intervention. Essaye de bien rester les yeux et les oreilles ouverts à Radio France pour un peu venir nous raconter à ton retour comment tout ça se passe là-bas.
Je vous dirai tout.
Et la prochaine fois que tu peux intervenir dans l'émission, que ce soit en direct live ou au téléphone, n'hésite pas.
Il y a pas de problème. Et puis donc après Noël, le petit cadeau sera des sons de cette manif avec des témoignages de manifestants et puis la petite rencontre chevènement et votre fidèle serviteur qui s'est pas super bien passé parce que quand j'ai posé certaines questions, il y avait son conseiller de communication qui avait l'air vraiment pas content de me voir. Et c'était assez marrant, quoi.
Ce sera la récompense pour avoir survécu aux fêtes de famille. Rendez-vous donc le 8 janvier. Et merci beaucoup, Nicolas.
Et bonne émission.
Merci.
Et à bientôt.
Merci. Salut, Nicolas.
Ciao.
Eh bien, voilà. Je propose tout de suite, par ce temps froid, de prendre une petite respiration, un petit peu de musique. Thank you. Et voilà, dommage que vous n'ayez pas l'effet stéréo, parce que ITU, c'était...
Ouais, on l'a dans le casque, c'est un peu
troublant. On l'a dans le casque.
Donc,
c'était
Campus...
R.
Pardon.
C'était R avec Don't Be Light. Voilà, donc je vous parlais dans l'intro de Geoffrey Goehens. Geoffrey Goehens, c'est un jeune homme très prometteur qui fait un doctorat en journalisme et communication dans la section de sciences des communications à l'ULG, l'Université de Liège. Et il prépare un doctorat sur les liaisons dangereuses entre le monde des affaires, l'industrie, etc. Et notamment le monde des médias. Alors, comme c'est un garçon prolixe, il écrit. On avait déjà fait une interview de lui à ce sujet dans la première saison, je pense, d'Alter Echo. Et là, il sort dans la foulée de sa thèse de doctorat qui n'est, à mon avis, pas encore rendue. Il sort d'abord un premier livre qui s'appelle « L'information sous contrôle ». Sous-titre, je ne sais plus, je ne l'ai pas sur moi parce qu'on me l'a volé, mais dans lequel il examine finalement tout le secteur des médias en Belgique par le menu. Vraiment, ça se lit un peu comme un annuaire. On apprend qui est jusqu'au dernier administrateur de tel ou tel groupe de presse. Donc il y a plusieurs parties, mais vous l'entendrez dans l'interview. Il examine notamment l'actionnariat des groupes de presse, qui sont les administrateurs, quels sont les liens des membres des rédactions avec le monde des affaires. Et puis aussi, il fait une petite analyse de contenu des médias en règle, en prenant trois exemples, la lutte à Clabec, autour des forges de Clabec, la grève des techs en Wallonie il y a 2 ans, je pense, quelque chose comme ça, et puis l'altermondialisme en général, c'est un peu plus court. Et donc voilà, c'était une bonne raison d'aller voir Geoffrey Goehens pour qu'il nous explique ce qu'il y a dans son livre. Ça s'appelle « L'information sous contrôle », c'est aux éditions Labor, et c'est certainement un cadeau de Noël plus intelligent que certains
ouais,
autres.
Si le sujet vous intéresse, c'est vraiment... C'est le type le mieux documenté sur la question
certainement,
en Belgique. C'est...
Certainement. Et vous
entendrez. Ça lui arrive à la cheville, quoi.
C'est sûr. Et vous entendrez aussi en fin d'interview qu'il prépare un deuxième livre aux éditions EPO pour le mois de février, si je ne m'abuse, qui là, finalement, prendra le même parti, c'est-à-dire examiner les liens inconnus entre divers acteurs du monde des médias, du monde des affaires, etc., les clubs où ils se réunissent, etc., et en tirer évidemment des conséquences. Mais là, ce livre-là sera beaucoup plus large, dans le sens où il parlera pas que de la Belgique, mais à peu près du monde entier. Je vous disais que c'était un garçon ambitieux. Eh ben, le voici, il nous explique ce que c'est pour lui la presse.
La presse est une entreprise d'information, plus exactement de désinformation sur certains dossiers, et de façon générale, je dirais, pour paraphraser Chomsky, qui a beaucoup travaillé là-dessus aux États-Unis, et ce n'est pas très différent chez nous, bien au contraire, que la presse, c'est aussi une fabrique du consensus, de façon générale et au quotidien, au-delà des événements où on peut voir qu'il y a réellement un parti pris ou que la presse verse dans la propagande au sens le plus classique du terme. Alors, c'est une industrie du consensus qui fait passer un message social, économique et politique qui défend généralement, disons, le système économique capitaliste dans sa variante actuelle qui est néolibérale. Alors, c'est une industrie au double sens du terme, parce qu'il y a évidemment un ensemble de profits et une plus-value d'abord économique, mais aussi politique et idéologique que les chefs d'entreprise et les propriétaires de médias peuvent retirer du discours qu'ils font passer dans la presse avec plus ou moins de conscience et de bonne volonté. Et ensuite, je dirais que la presse a à voir avec l'industrie parce que précisément en Belgique, comme aux États-Unis, comme en France et comme dans les autres pays à économie de marché, même si on ne le dit pas souvent, la presse est essentiellement passée, sans grand reste d'ailleurs, sous le contrôle, je ne dirais pas des marchés parce que c'est un terme un peu trop vague, mais sous le contrôle de capitaux industriels et financiers qui s'incarnent dans des personnalités qui elles-mêmes incarnent les milieux d'affaires en Belgique. L'idée du bouquin, c'était précisément de faire le lien entre, comme on disait à l'époque dans la rhétorique marxiste, si on peut encore l'utiliser aujourd'hui, entre l'infrastructure et la superstructure, et montrer que le contrôle des milieux industriels et financiers passe certes d'abord par la présence de ces capitaux dans l'actionnariat de ces groupes de presse en Belgique, mais d'aller au plus près des rédactions et de monter la chaîne de ces collusions structurelles. Donc il y a d'abord dans ce livre évidemment une analyse de l'actionnariat de ces groupes où on retrouve essentiellement des compagnies industrielles et financières belges et parfois des intérêts étrangers inavouables ou
qu'ils ont très imprévu, comme dans le cas du groupe Russell, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure. Ensuite, il fallait également analyser la composition des conseils d'administration et les personnalités qui incarnent ces compagnies et ces capitaux. Donc, ces genres des milieux d'affaires qui ont de nombreux mandats dans d'autres compagnies industrielles et financières belges qui n'ont rien à voir avec le secteur des médias ou même de la communication au sens large, qui par ailleurs appartiennent à des clubs de l'élite au niveau international, qui ont des liens avec les familles politiques traditionnelles en Belgique, parce que le pouvoir économique exerce non seulement un monopole sur les médias, mais il faut le dire, c'est une imbrication générale, un monopole sur le pouvoir d'État. Et tout ce que je dis ne suppose pas du tout une théorie du complot, mais c'est une logique structurale de système, tout simplement. Ensuite, au plus près des rédactions, il s'est agi d'analyser de profiler plus exactement l'identité des rédacteurs en chef.
Oui, parce que on se dit, d'accord, tout ça, ce chapeautage, le système médiatique au-dessus des rédactions, on peut bien imaginer qu'il est imbriqué dans le système industriel, mais a priori, les journalistes sont des gens qui roulent pas sur l'or, qui sont pas censurés. Ça se saurait quand même si chaque article passait dans une chambre rouge de la censure. Donc, comment est-ce que ça arrive à, cette idéologie, disons patronale, arrive à filtrer jusque dans la plume du journaliste individuel?
Mais ce que tu dis est tout à fait intéressant, à savoir, les journalistes sont, la plupart d'entre eux, des contrats à durée déterminée, des faux indépendants et des journalistes précaires qui sont aussi les premières victimes.
Est-ce qu'on peut dire la plupart? Parce que quand Lille Soir ou La Libre Belgique, c'est toujours les mêmes noms qu'on retrouve, parfois justement depuis 20 ou 25 ans. Donc,
c'est vrai qu'il ne faut pas nier les choses, et c'est là que je veux en venir. Il y a une partie importante, peut-être pas la plupart, il faudrait étudier ça de façon statistique un peu plus précise, une partie importante du corps journalistique qui est victime lui-même de ce système sous contrôle qui l'emploie et qui fait qu'il est limité dans ses marges de manœuvre et dans ses possibilités d'écriture et dans les limites de ce qu'il peut dire et de ce qu'il ne peut pas dire. Et puis il y a toute une autre fraction du monde journalistique, l'élite journalistique, qui comprend les rédacteurs en chef, mais aussi les chefs de rubrique et les plumes confirmées d'une certaine façon, les professionnels d'information, ceux qu'on appelle les professionnels de l'information, qui, comme le dit très bien Alain Cardo, sont considérés par le pouvoir comme étant des professionnels de l'information parce qu'ils ont justement pu faire la preuve qu'ils étaient capables, en toutes circonstances, sinon de défendre le système, du moins d'éviter qu'il ne s'enraye et d'éviter que ce ne se développe par son égard des critiques virulentes. Et alors là, on voit bien effectivement que si l'on prend des quotidiens comme Le Soir ou La Libre Belgique, pour prendre les deux grands quotidiens de référence en Belgique francophone, les élites médiatiques de ces deux quotidiens ont des relations familiales ou autres avec les milieux d'affaires en Belgique. Alors Le Soir, c'est un peu particulier dans la mesure où très longtemps le seul actionnaire du quotidien c'était la famille Russell Urbain, qui est toujours aujourd'hui actionnaire majoritaire à 60%. Et donc je dirais que cette famille-là n'avait a priori d'intérêt que dans le secteur de la communication au sens large, donc publicité, imprimerie, etc. Mais comme le disait déjà Pierre Jean dans les années 50, donc on voit sa date dans son bouquin sur les médias et les trusts, Le Soir maintient, je dirais, de façon soutenue des relations avec les milieux d'affaires, et il défend aussi un certain système, une certaine représentation du monde, par sa proximité géographique, notamment son appartenance à la sphère bruxelloise où se trouve l'essentiel du pouvoir en Belgique. Et alors, celui qui incarnait par excellence cette position, c'était par exemple quelqu'un comme Guy Duplat, qui a longtemps été rédacteur en chef, dont le frère Jean-Louis Duplat était président de la commission bancaire et financière, qui est aujourd'hui conseiller dans une société de management, et dont le fils de Jean-Louis Duplat, et donc le neveu de Guy Duplat, est administrateur du groupe Van de Mortel, qui est un grand groupe dans l'industrie des huiles alimentaires en Flandre, et qui est administrateur de toute une série de sociétés en Belgique, mais également en Amérique latine, où on pourrait encore préciser le détail donc de Guy Duplat. Alors qu'à La Libre, par exemple, là, je dirais que historiquement, il y a toujours eu des actionnaires qui étaient aussi actionnaires de compagnies industrielles et financières. Et là, les liens sont aussi vraiment très, très nombreux. Hein.
Alors, avant de passer à l'influence directe sur les contenus, deux choses. D'abord, comment est-ce que historiquement ces choses-là ont évolué? Je suppose que c'est pas comme ça depuis les débuts de la presse.
Alors, ce qui est intéressant à constater, c'est qu'il n'y a jamais eu, à mon avis, d'âge d'or de la presse. Moi, je ne dénonce pas ou je ne décris pas un système tel qu'il fonctionne réellement aujourd'hui en se disant que ça a été peut-être mieux avant. Je ne crois pas à cette utopie en retour d'une certaine façon de d'un âge d'or. Je pense que la presse a toujours des origines, était sous le contrôle de capitaux industriels et financiers. Souvenir de la phrase de Marx, quand même, l'information est le lubrifiant du capital. Ça ne date pas, d'hier. Savoir que
Parfois, c'est aussi sous la coupe d'un pouvoir politique très fort, plutôt que sous la coupe de pouvoir économique.
Oui, bien entendu. Il y a ça qui s'y est ajouté. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier temps où la presse était sous contrôle de capitaux industriels et financiers, et où les premières agences de presse qui ont été créées, comme Havas, par exemple, étaient d'abord des sociétés au service du pouvoir, mais aussi des banquiers déjà. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu toute une série de médias publics qui ont pris une importance considérable dans le champ médiatique en Belgique et en Europe et ailleurs. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que aujourd'hui, nombreuses de ces compagnies ont été privatisées et sont repassées sous la coupe de capitaux industriels et financiers. Et surtout, aujourd'hui, on n'a plus en Belgique, par exemple, de médias qui s'affichent ouvertement comme un média de gauche ou un média progressiste. La Wallonie, Le Peuple, Le Matin, on connaît les difficultés qu'a connues le journal du mardi, le mensuel Avancé, la Cité, Presse démocrate chrétienne, tous ces médias que l'on qualifiait de médias appartenant à la famille progressiste ont aujourd'hui disparu. Donc la situation, d'une certaine façon, est pire, si l'on veut, puisque les capitaux industriels et financiers qui contrôlaient déjà toute une série de médias dont la ligne politique était ouvertement de défendre le système tel qu'il est, sont toujours là. Mais en plus, les autres ont disparu, si l'on veut. Mmh. Voilà. Donc je pense que les choses sont, oui, pire, on peut dire pire qu'avant. Mmh.
Deuxièmement aussi, avant de passer au contenu, le propos du livre n'est pas du tout de dénoncer un espèce de grand complot, tu l'as déjà dit, où on ferait exprès de se marier avec un tel et un tel. C'est simplement, l'idée est simplement de dire, voilà, c'est finalement un milieu naturel dans lequel baignent ces gens, et à la limite, ils font même pas exprès, quoi.
Oui, tout à fait, l'idée du complot est tout à fait absente et non pertinente pour rendre compte de la description d'un tel système. Puis, n'oublions pas aussi que par définition, un complot, la théorie du complot est d'autant plus solide que le complot ne se démontre pas. Or ici, tout est démontré, fait à l'appui, et ce n'est pas du tout effectivement une logique du complot concertée. Je dirais que les gens qui sont cités dans le bouquet et qui appartiennent par exemple à des clubs de l'élite sont faits pour s'entendre, naturellement. Ils sont au diapason, si l'on veut. Les choses n'ont pas toujours besoin d'être orchestrées. Si, il y a des orchestrations, il y a des couvertures médiatiques d'événements où on sait qu'il y a des coups de fil, qu'il y a des effets de censure ou d'autocensure. Ces choses-là existent encore. Il ne faut pas être naïf. Je pense qu'elles ont encore leur importance. Mais de façon générale, le système fonctionne de façon plus ou moins, ou même très bien huilée. Et c'est pour ça que le système est d'autant plus puissant. C'est que les choses passent de façon inconsciente, inavouée. Et voilà.
Passons maintenant justement à la répercussion de toute cette superstructure, disons, sur le contenu qu'on a tous les jours dans son journal. Il y a trois exemples qui sont cités dans le livre, donc la façon dont a été traité Clabec par l'ensemble de la presse, donc tout le conflit social, puis les démêlés juridiques, etc. Il y a aussi la grève des techs en Wallonie il y a un ou deux ans. Et il y a l'altermondialisme en général, plus ou moins. Mais on pourrait se dire, tiens, Geoffrey Goebbels a cherché jusqu'à ce qu'il trouve, et il a réussi à glaner trois sujets, finalement, où on voit clairement une influence de tout ça sur le contenu. Mais finalement, non, c'est quelque chose qui est tout au long de l'actualité. On pourrait trouver presque chaque jour des exemples de l'influence de tout ça sur le contenu. Il y en a d'ailleurs même aussi eu depuis la sortie du bouquin.
Deux exemples parmi d'autres, le cas de John Gossens. John Gossens, donc je rappelle, donc qui était donc président directeur général de, enfin administrateur délégué, pardon, de Belgacom, et grande figure du monde des affaires en Belgique, qui est décédé il y a peu.
Et du sport,
bien entendu, et de la culture même, et qui a fait l'objet d'articles tout à fait laudatifs, très élogieux.
On ne dit pas de mal des morts.
Oui, c'est vrai, on ne dit pas de mal des morts, et oui, si l'on veut, c'est vrai que ça peut se justifier en partie dans ce sens-là, mais la presse a quand même été plus loin que ce qu'elle ne l'a fait pour d'autres personnalités. Vous savez, le jour où un délégué syndical qui aura marqué l'histoire de la Belgique décédera, on verra comment la presse parlera de ce délégué syndical ou d'autres personnalités qui ont créé des ennuis pour le pouvoir en Belgique. Mais là, on voit que la presse a vraiment été tout à fait du côté de la louange, de l'éloge à l'encontre de la personnalité de John Gossens, en allant jusqu'à dire qu'il avait incarné le modèle du management dans le secteur public, qu'il avait réussi à moderniser la vieille RTT poussiéreuse sans heurts sociaux. Alors, on se souviendra quand même des licenciements à Belgacom, des suicides qu'il y a eu également à Belgacom, dont on a un petit peu parlé. Donc, John Gossens était tout sauf le modèle d'un management soft, s'il peut avoir un management qu'on peut qualifier de soft et de civilisé. Ça, c'est autre chose. Donc, ça, c'est le cas de John Gossens. Et alors, plus intéressant peut-être, parce que moins lié encore à un événement, je pense notamment au rapport que l'IRES a produit il y a de cela quelques semaines. L'IRES, en fait, c'est l'Institut de recherche économique et sociale qui appartient au département économique de l'Université catholique de Louvain. Et l'IRES a publié donc un rapport intitulé « Salaire et normes salariales en Belgique », qui est sorti en fait dans sa revue, la revue « Regard économique », numéro 6, novembre 2002, je donne les sources, et dans lequel donc l'IRES en appelait donc à l'orthodoxie économique, à la défense de la compétitivité et donc à la baisse continue des cotisations patronales en Belgique, et surtout demandait qu'on évite d'augmenter les salaires et de maintenir telle qu'elle était la norme salariale. Alors ce rapport a fait grand bruit dans la presse s'est largement fait l'écho de ce rapport, dans le contexte qui était celui en plus justement des négociations entre patronat et syndicats, pardon. Et donc on s'est fait largement l'écho de ce rapport présenté par un organisme d'experts qualifiés, de chercheurs économiques, etc., sans préciser ce que probablement les journalistes ne savaient pas, mais à la limite peu importe.
Ils n'ont pas le réflexe d'aller gratter.
Le fait est qu'il n'y a plus aujourd'hui dans la presse, s'il y a eu un jour chez certains journalistes et dans certaines nations, le réflexe d'aller voir. Mais c'est quoi l'IRES ? Il faut savoir que l'IRES, par-delà la qualité de ses chercheurs, c'est pas de ça que je parle, peu m'importe, l'IRES est notamment financée par la Fondation Louvain, qui est une fondation donc liée évidemment à l'Université catholique de Louvain, et présidée par le vicomte Étienne d'Avignon, donc vice-président de la Société Générale de Belgique, et qui par ailleurs appartient à l'élite internationale et qui a été aussi administrateur de toute une série de compagnies américaines. Le vice-président, c'est Jacques Moulard, le patron de la BBL, et les administrateurs de la Fondation Louvain, ben, c'est essentiellement ces grandes figures du monde des affaires qu'on retrouve aussi derrière des médias, tels que Philippe de Spoelberch, dont la famille est actionnaire d'Interbrou, Yves Dumonceau de Bergendal, c'était le groupe GIB, Quick, etc., Dominique Collinet, l'ancien patron de l'Union Wallonne des entreprises et patron de Carneuse, Daniel Cardon de Liquibueur, qui était aussi un ancien patron de la BBL, qui est devenu président de Shahid Focus pour l'information, ça c'est autre chose. John Gossens, qui n'y est plus forcément. Il y avait également Georges Jacobs, qui est le président de l'UNICE, donc la Confédération des patronats européens, et de l'UCB, l'Union Chimique Belge. Jean Stéphane, ancien patron de l'Union Wallonne des entreprises et président de Smith Kline Bichan, donc la société pharmaceutique. Luc William, Glaverbel, etc., etc. Et Jean-Jacques Viseur, évidemment, qui en est mort en tant que président du conseil d'administration de l'UCL. Ce genre de choses n'a pas été dit dans la presse. Ça ne demandait pas beaucoup de temps. Non. Certains étaient probablement au courant, et pour eux, ce n'est pas utile de le dire, l'IRES est un centre tout à fait respectable, et comme certains journalistes sont acquis aux idées que défend l'IRES, il n'y a pas de raison d'aller gratter. Il y en a d'autres qui n'ont pas pris la peine simplement ou qui ne connaissaient pas l'IRES et qui ont tel quel se sont fait l'écho de ce rapport-là. Mais moi, je n'ai pas vu, ou alors je n'ai pas bien lu la presse, de papier précisant voilà exactement ce que dit l'IRES, voilà ce qu'est l'IRES. Ça pose quand même question, à mon avis. Mmh.
Tu prépares aussi un autre bouquin qui va sortir chez EPO et qui finalement, si je ne me trompe, mais corrige-moi, reprend ce même propos mais l'élargit bien au-delà des médias. Donc collusion entre monde politique en général, monde économique et financier.
Oui, c'est cela. Donc il élargit au monde des médias et il élargit surtout à la Belgique. Donc le titre du livre, je peux le donner puisqu'il est déjà sur le site de l'éditeur, donc je ne trahis rien. Trahit pas de secret. Le titre, ce sera Tout pouvoir confondu, et le sous-titre Capital, État et médias à l'ère de la mondialisation. Donc l'objectif, c'était avec ce livre, avant de dire concrètement ce qu'il y a dedans, de se positionner dans le débat sur la mondialisation et d'essayer justement d'aller un peu à contre-courant des thèses dominantes d'une certaine fraction de l'intermondialisme, qui consiste précisément à dire qu'il faut critiquer un capitalisme financier parasitaire versus un capitalisme c'est celui de l'industrie des finances qui est plus rarement critiqué, une critique de la marchandisation du monde qui fait l'abstraction de la critique des rapports de production à l'origine de cette marchandisation du monde, et alors surtout un discours général qui en appelle à une civilisation du capitalisme et surtout à un appel permanent à l'État ou aux politiques, incarnant le garant du bien commun, alors que ce que je montre dans ce livre fait à l'appui, il y a des milliers de noms de personnes et de sociétés qui sont cités, on voit qu'il y a une interpénétration des milieux d'affaires et de la classe politique dominante, et que, à mon avis, on ne peut pas résolument et raisonnablement critiquer la mondialisation sans critiquer aussi le monde politique et même critiquer l'État. Je pense qu'il y a une logique à avoir là-dedans, et donc là on voulait se positionner un peu, enfin je voulais me positionner dans ce débat-là un peu en marge de toute cette littérature abondante sur la mondialisation, mais souvent très générale et très abstraite, et qui à mon avis ne pose pas les choses dans les meilleurs termes.
Et voilà, donc Geoffrey Goens, son livre qui est déjà sorti, c'est « L'information sous contrôle » aux éditions Labor, et puis le livre à venir, vous l'avez entendu, « Tout pouvoir confondu » aux éditions EPO ou EPO. Eh bien voilà, pour introduire le petit medley de Noël de Nico, voici un petit hommage musical à la messe de minuit.
Sanguis minimus corpus animus.
Alors là, Nicolas, il faudra que ton sujet soit à la hauteur de ce petit générique prometteur.
Ben voilà, bienvenue donc à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes bien dans Alter Echo, pas dans un nouveau programme sataniste sur Radio Campus. Voilà, la musique faisait donc référence aux messes de minuit, un peu plus rythmée à mon avis la musique que les messes en réalité. Et comme vous le savez sans doute, dans une semaine, c'est Noël. Vous vous en serez probablement rendu compte, c'est difficile d'y échapper. Noël, période magique s'il en est, illuminée par la prestance du majestueux et rigolard homme des bois, le bien nommé Père Noël.
Ou Père des bois ?
Ou Papa Noël pour les intimes. Tu disais ?
Il vit dans les bois ?
Sous la glace une bonne partie de l'année, paraît-il. Mais d'où vient ce valeureux conducteur de Rennes qui s'est si bien réchauffé nos cœurs? C'est précisément la question à laquelle je vais essayer de répondre maintenant, Olivier. Donc tu anticipais un petit peu.
Une enquête de Nico.
Voilà, c'est exactement à cette question, les origines du Père Noël, à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui, mais vous en doutez, à la manière un petit peu alter ego, c'est-à-dire que mon histoire risque d'être un petit peu privée de la magie dont les médias emballent habituellement les histoires de Noël. Alors, l'histoire du Père Noël, vous ne le savez sans doute pas, mais le Père Noël est en réalité un clone nord-américain de notre Saint-Nicolas. Alors, on va donc commencer par Saint-Nicolas, puisque c'est de là que vient le Père Noël. Saint-Nicolas était à l'origine le Saint-Évêque de Myre. Myre, c'est en Lycie, en Asie mineure, mais je sais pas très bien où c'est, mais enfin...
C'est en Turquie.
C'est en Turquie, voilà. Donc, c'est les infos que j'ai eues. Saint-Nicolas était donc... un évêque au départ, c'est ce qui explique son étrange chapeau qu'il a gardé jusqu'à l'heure actuelle. On connaît peu de choses de sa vie, il semble avéré qu'il ait sauvé trois jeunes filles promises à l'esclavage en allant les racheter en jetant du pognon par la cheminée de leur maison. Des sesterces, comme on les dépensait en Asie mineure au VIe siècle. Depuis des siècles, Saint-Nicolas, suite à ses nombreux miracles, est fêté dans nos régions le 6 décembre, c'est-à-dire le jour de l'anniversaire de sa mort. Au XVIe siècle, la réforme protestante qui sévit dans nos régions supprime la fête de Saint-Nicolas. Mais les Hollandais, vous les connaissez, très attachés à leur Saint-Nicolas, ont gardé leur Sinterklaas, comme ils disent là-bas. Et quand les Hollandais ont émigré aux États-Unis vers le XVIIe siècle, ils ont répandu là-bas leur coutume païenne de Sinterklaas, le Sinterklaas à l'américain. Ça donnait Santa Claus, le fameux Père Noël américain. Sinterklaas, Santa Claus, voilà, tout se rejoint. C'est là que débute un long processus d'américanisation de notre Saint-Nicolas, de nord-américanisation pour être plus précis. En quelques décennies, la coutume donc Sinterklaas, la coutume néerlandaise de fêter la Saint-Nicolas s'est répandue aux États-Unis. Après plusieurs décennies de nouveau, la société chrétienne nord-américaine trouva plus approprié que cette fête des enfants soit davantage rapprochée de celle de l'enfant Jésus, ce qui a ramené une fête qui était célébrée au départ le 6 décembre, le 24 décembre ou le 25, c'est quand encore la fête de Noël ?
Eh bien, la veillée de Noël, c'est le 24 et la fête de Noël, c'est le 25.
Voilà donc comment Sinterklaas se retrouve le 25. Ensuite, en 1821, toujours donc là, on a simplement notre Sinterklaas classique juste propulsé 15 jours plus tard, mais avec le même accoutrement. Ensuite, en 1821, un pasteur américain a écrit un conte de Noël pour ses enfants dans lequel un personnage sympathique apparaît pour la première fois, en lutin vert d'ailleurs, dans son traîneau tiré par 8 rennes. Figurez-vous, ça commence à vous rappeler quelque chose. Ce pasteur avait même donné des noms à chaque reine, mais ça, je vous épargne. Il avait imaginé ce lutin dodu, jovial et souriant, et remplaça la mitre du Saint-Nicolas par un bonnet, sa crosse par un sucre d'orge, et le débarrassa du père Fouettard ainsi que de l'âne, vraisemblablement déclassé par la puissance moteur des rennes.
Tu as dit lutin vert ?
Absolument, lutin vert. Vous avez bien entendu, le Père Noël était vert. Attends, parce que tu me fais sauter une étape de ma petite histoire que j'ai écrite. Ah, je continue. Donc jusque-là, en effet, le lutin est vert. Mais il est un lutin aussi, hein, ce qui n'est pas le cas du nôtre. Enfin bon. Ensuite, la presse américaine a flashé littéralement sur cette histoire de lutin vert, l'histoire du pasteur, qui destinait au départ juste à ses enfants, et a répandu cette histoire partout. Donc, tout à coup, l'ingénieur est en train de s'étouffer ici. Tout à coup, Saint-Nicolas n'avait plus... une mitre d'évêque, mais comment on dit ?
Un bonnet de...
Mais il avait un bonnet, voilà, voilà, voilà. Donc la presse américaine véhicule très vite, flash sur cette histoire et véhicule ce nouveau portrait du Saint-Nicolas du 24 décembre. Repris pendant des années par les grands journaux américains, le récit du pasteur fut ensuite traduit en plusieurs langues et diffusé dans le monde entier. C'est là que commence à nous revenir Saint-Nicolas modifié. Puis au cours du XVIIIe siècle, un grand illustrateur de journaux américains, un certain Thomas quelque chose, je vous passe son nom de famille, renforce l'image du lutin pilotant 8 rennes en lui attribuant cette fois le pôle Nord comme résidence officielle et une demeure sous la glace. Donc là, le mythe se consolide. Mais il faudra attendre 1931 pour que le Père Noël trouve enfin l'image qu'on lui connaît aujourd'hui. Et qu'est-ce qui est à la base de cette révolution ? Parce que vous vous dites déjà, mais qu'est-ce qui lui prend à cet animateur radio à la noix de connaître l'année exacte de fabrication de Papa Noël ? Eh bien pourtant, on ne peut pas se tromper, c'est une campagne de publicité Coca-Cola destinée à encourager la consommation de Coca même en hiver, qui a fait naître le Père Noël tel qu'il a débarqué chez nous.
C'est-à-dire rouge.
Ainsi, ce grand bonhomme à stature humaine au ventre rebondi et à l'œil rieur n'est rien d'autre que la création d'un talentueux graphiste de l'époque, un certain Adon quelque chose, qui ne manqua pas de revêtir son nouveau héros du rouge et blanc Coca-Cola. Te rends-tu compte ?
Je savais pas que le Père Noël était sponsorisé.
La firme américaine, déjà à l'époque, avait eu le génie de dessiner ce vieux bonhomme en train de boire du Coca-Cola pour reprendre des forces pendant sa distribution de jouets. Ainsi, les enfants seraient incités à en boire durant l'hiver. C'était l'objectif. Ensuite, pendant près de 35 ans, Coca-Cola diffusa ce portrait du Père Noël dans la presse écrite, puis à la télévision, partout dans le monde. Ce nouveau look et la renommée que lui valut la pub firent du vieux bonhomme le maître planétaire de la nuit magique.
Et voilà, ça vous ces illusions qui s'envolent,
ça vous embouche en coin. Enfin, par souci d'objectivité, j'ai quand même noté, et je vous fais rapidement part de l'explication russe en ce qui concerne Saint-Nicolas. D'après les Russes, il semblerait donc même que le patron des enfants ne soit pas épargné par les interprétations divergentes de l'histoire provoquées par la guerre froide. J'espère que ça vous fera pas trop mal au cœur. Mais donc, selon une légende russe, en ce qui concerne Saint-Nicolas, il serait issu d'un quatrième roi mage, dont on vous aurait jamais parlé, qui conduit sur la steppe un traîneau tiré par des rennes et rempli de cadeaux pour les enfants. Et ce type, depuis 2000 ans, a renoncé à trouver l'enfant Jésus, alors il comble de cadeaux les enfants qu'il rencontre en cours de route. C'est joli aussi, non ?
Oui, oui, quatrième roi mage, treizième apôtre, huitième jour...
Voilà donc l'histoire de notre héros du moment, le Père Noël réduit à une minable opération commerciale. Peut-être trouverons-nous, et c'est mon espoir, un petit peu de réconfort auprès du nouvel acteur de cette belle histoire, c'est-à-dire la firme Coca-Cola.
En tout cas, raconter cette histoire à vos enfants, ça les éduquera.
Oui, tout à fait. Moi, comme j'étais un petit peu désespéré, comme je viens de le dire, j'ai enchaîné sur l'histoire de Coca-Cola, qui allait peut-être me révéler beaucoup plus de miracles et de tendresse plus propre à l'esprit magique de Noël. Eh bien, à propos de Coca-Cola, j'ai entendu des très vilaines histoires, justement, qui n'auraient certainement pas du tout plu à Papa Noël. Quoique Papa Noël, finalement, il est nord-américain. Donc, moi, les vilaines histoires que j'ai entendues à propos de Coca-Cola, elles se passent au sud des États-Unis, en Amérique latine, au sud du continent américain. Donc, peut-être que le Père Noël, il va pas là-bas, il s'est pas rendu compte. Toujours est-il que, figurez-vous, que Coca-Cola a de grosses usines en Colombie. Pays où, vous le savez peut-être, les grands patrons et les groupes industriels et financiers ont recours fréquemment aux services de milices paramilitaires qui ne sont pas déguisés en Père Noël et qui sont là pour étouffer les revendications sociales. Eh bien, figurez-vous qu'un syndicat colombien de l'industrie alimentaire, le principal syndicat colombien de l'industrie alimentaire, accuse Coca-Cola, son employeur, je confonds tout là.
Le principal animateur d'Alter Ego a perdu son texte.
Donc, ce grand syndicat, qui regroupe pas mal d'employés de Coca-Cola en Colombie, a déposé plainte, disant que Coca-Cola faisait appel à des milices armées pour réprimer les groupes sociaux en son sein. Et ils avancent des preuves, ils parlent de violations répétées des droits de l'homme, et il y a pas mal d'assassinats, et les preuves sont tellement convaincantes que la Cour suprême de Floride a conclu à la mise en accusation de Coca-Cola. Pour vous donner quelques chiffres, il faut savoir que le fameux syndicat qui regroupe les travailleurs de l'industrie alimentaire en Colombie, lors des dernières années, a vu son nombre d'affiliés baisser de 5400 à 2300 suite au régime de terreur élaboré par les paramilitaires, financé notamment par Coca-Cola. Et 14 dirigeants syndicaux furent assassinés, dont 7 qui représentaient des usines Coca-Cola. Et 3 ont été assassinés alors qu'ils étaient en pleine négociation avec le patronat. Donc ça donne tout de suite une ambiance. Et puis 48 autres syndiqués furent déplacés, 2 exilés, d'autres détenus injustement et 2 autres déportés. Mais Coca a aussi des usines au Guatemala où depuis que le syndicat des travailleurs de Coca-Cola a commencé à se construire, 6 de ses dirigeants ont été assassinés et 4 portés disparus.
Le Donc, syndicalisme en Amérique latine en général et en Colombie et chez Coca-Cola en particulier est nettement plus dangereux que tous les accidents de travail ou de la route ou quoi que ce soit réunis. Il y a eu d'ailleurs tout récemment, il y a un mois, quelque chose comme ça, une audience publique, un tribunal populaire au Parlement européen à Bruxelles, justement contre ces pratiques-là de Coca-Cola en Colombie. Et c'est vrai que les témoignages étaient tout à fait poignants.
Oui, voilà. Et puis bon, donc comme je vous disais, au Guatemala, c'est un petit peu la même chose. Et par exemple, il y a une vingtaine d'années, pendant une occupation d'usine, un certain Edgar a été torturé et assassiné parce qu'il occupait l'usine. Et moi je me suis dit que peut-être que ces gens auraient mieux fait d'occuper l'usine à la mi-décembre, quoi, enfin fin décembre, peut-être que leur patron, Coca-Cola, tout ça, parce qu'ils ont fait cette occupation en juin, tu vois, c'était pas malin, ils savaient peut-être pas pour Santa Claus et tout ça, quoi, enfin bon. Et puis pour revenir sur la Colombie, en deux mots là, pour donner un chiffre un petit peu encourageant, il faut savoir que dans le courant de l'année 2001, 160 syndicalistes ont été assassinés, 160, c'est quelque chose qu'on dit pas souvent. Et depuis 87, ce sont plus de 3500 syndicalistes colombiens qui ont connu une mort violente. Donc,
il y a de quoi dissuader, Zazekin.
Il y a de quoi dissuader. Donc tout ça m'a un petit peu déprimé, le Père Noël, sa véritable histoire, Coca-Cola et la façon dont il traite ses gentils travailleurs. Donc j'ai été chercher ailleurs le véritable esprit de Noël et je pense avoir partiellement trouvé au moins une de ses expressions dans un communiqué de presse, ce qui peut paraître anti-érotique au départ, et pourtant c'était très mignon, un communiqué de presse sur le site d'Indymedia. Et c'est un comité de presse du Vluchtelingen Actie Committee, le VAC, un groupe de Gantois qui lutte contre les centres fermés et la situation, et qui défendent les droits des sans-papiers dans nos pays en général. Et ils organisent une action, et je vous lis un petit peu un passage du communiqué de presse que vous devriez retrouver sur le site d'Indymedia, ça a été publié la semaine passée. Il dit ceci, la période de Noël approche, durant laquelle tout le monde profite d'un peu de calme et de repos. Tout le monde, demande-t-il, en tout cas pas les personnes emprisonnées dans un centre fermé. évidemment. Depuis des années, des réfugiés sont enfermés entre quatre murs dès leur arrivée dans notre pays. Les conditions de vie dans un centre fermé sont à de nombreux égards pires que dans une prison, ils ont raison de le rappeler, principalement en ce qui concerne les contacts avec le monde extérieur. Néanmoins, le seul crime que ces personnes ont commis est d'avoir fui leurs conditions de vie misérables à la recherche d'une vie meilleure. Nous voulons dénoncer les conditions de vie intolérables dans les centres fermés et le concept de centre fermé lui-même. La période de Noël est le moment par excellence pour montrer notre soutien aux demandeurs d'asile. Pour cette raison, le VAC organise une veillée de Noël au centre fermé Le Refuge à Bruges le dimanche 22 décembre. Donc à vos agendas, dimanche 22 décembre à Bruges, un petit cadeau, hein, se mobiliser pour les sans-papiers, ça peut faire vraiment Noël, non Olivier?
Vachement.
C'est tout de suite plus touchant. D'ailleurs voilà le passage qui m'a le plus plu dans leur invitation par rapport à l'esprit de Noël, qui est donc mon sujet de prédilection ce soir.
Le fil rouge.
Il est important de mener cette action durant la période de Noël. Non pas pour participer au tourbillon du commerce et de consommation, et non plus pour jouer sur l'émotion du moment pour entraîner les réfugiés dans ce festin commercial, on s'en doute, les pauvres. Au contraire, nous voulons ramener Noël à son message premier. Et là, il le rappelle, et c'est pas mal. Il y a 2000 ans, un père, une mère et leur nouveau-né passaient d'abri en abri sans trouver de place.
Oui, ils ont été virés partout.
Voilà, cette histoire dénonce le manque d'hospitalité, le rejet de l'étranger. Et même si cette histoire fait partie d'une religion qui est un pilier de notre société et de notre culture, nous n'en avons pas retenu les leçons. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on dirait que c'est plutôt le Père Noël de Coca-Cola qui a gagné. Ouais. Si vous voulez rattraper le coup, n'hésitez pas à aller à Bruges le 22 décembre. Si vous voulez plus d'informations sur l'action, vous pouvez téléphoner à Gand au 09 264 35 70, 09 264 35 70. Et voilà, sinon sur le site d'Immédia, vous trouvez un tas d'adresses internet, etc., etc. Et pour enchaîner vite fait dans mon enquête sur l'esprit Noël, je me suis demandé qu'est-ce que ça avait eu comme répercussion sur notre gouvernement. Et j'ai cherché un exemple dans la politique d'hébergement, justement, des petits-enfants.
L'esprit de Noël à la rue de la Loi.
Et vous vous rappelez peut-être de l'histoire de Tabitha, une petite Congolaise de 5 ans, qui ne demandait rien à la Belgique, si ce n'est l'autorisation de poursuivre sa route vers le Canada, où l'attendait sa maman. Eh bien, en seule réponse de notre gentil gouvernement et des autorités compétentes, elle a dû subir 2 mois d'enfermement et une expulsion. Mais vous vous en rappelez sans doute. Cette histoire avait fait beaucoup de tapage, on a entendu des élus écolos et socialistes larmoyant devant les caméras expliquer que cette situation était insoutenable. Eh bien, récemment, un député que vous avez déjà entendu dans cette émission, Vincent de Crolly, député indépendant, a essayé, au moment où il fallait discuter l'histoire de cette gamine et le traitement des enfants, des mineurs d'âge reçus sur notre territoire et incarcérés parce qu'ils sont sans papier, a essayé d'introduire une motion, donc essayer d'ouvrir un débat au Parlement, où j'essaye de retrouver...
Je crois que tous les auditeurs ont déjà compris que toi, tu n'es pas sans papier du tout.
Ah ouais, non, c'est désolé pour le bruit, ça c'est un truc qu'on n'a pas encore arrangé à la radio. Eh bien, écoute, je ne retrouve pas ce texte, oui, voilà. Enfin, en gros, de Crolly dénonce quelque chose qu'un tas de conventions internationales et de défense de l'enfant dénoncent, c'est-à-dire que c'est insupportable d'enfermer des enfants sans raison, simplement parce qu'ils essaient de fuir une situation atroce. Vous avez entendu à l'époque des écolos, des socialistes se scandaliser aussi. Bien au moment où il a fallu voter, essayer d'interpeller le ministre de l'Intérieur pour qu'au moins il ait des comptes à rendre. Pas forcément, on ne demande pas forcément sa démission, mais ne fût-ce que débattre. La question, eh bien, la majorité dispose d'un mécanisme que je ne connaissais pas du tout à la Chambre, qui s'appelle la motion pure et simple.
Tout à fait. Je vais en reparler dans 5 minutes, d'ailleurs.
Ah d'accord, tu vas en parler.
Ne pas de celle-là. La motion pure et simple, en général, c'est un principe.
Mais ah, bah ouais, mais c'est ce que j'allais dire. Mais donc Olivier va vous en parler avec plus de précision. Mais la motion pure et simple permet en fait d'éluder une question parlementaire.
La motion pure et simple, ça veut dire on passe au prochain point de l'agenda.
Oui, c'est ça. Et comme en général, les questions vont déranger les ministres et donc les représentants de la majorité parlementaire, eh bien les questions ennuyeuses n'ont plus droit de citer au Parlement grâce à cette motion pure et simple dont Olivier va vous reparler si je continue à être bref. Alors je voulais terminer très vite. Si vous êtes sensible au sort des gens dans les centres fermés, il y a un petit calendrier d'action qui est fourni par le CLIC, c'est-à-dire le collectif pour la liberté d'installation et de circulation, qui annonce plusieurs dates, notamment la veillée de Noël le 22 décembre dont je viens de vous parler, mais aussi le vendredi 21 février, c'est le début du procès des inculpés des collectifs contre les expulsions. Et si vous voulez exprimer votre solidarité avec ces types qui sont finalement accusés de choses très graves, simplement parce qu'ils ont de manière généralement tout à fait pacifique défendu ont combattu, ont dénoncé l'existence des centres fermés, eh bien rendez-vous le vendredi 21 février 2003 à 8h30 devant le palais de justice de Bruxelles, mais on aura l'occasion d'en reparler.
Certainement.
Pour conclure, une dernière petite remarque par rapport à la fête de Noël. Je ne sais pas si on fête Noël au Népal, Olivier. Sachez en tout cas que les fameuses mitraillettes Minimi, vous vous rappelez probablement, la fabrique nationale d'armes de Herstal a passé commande, doit livrer 5000 mitrailleuses au Népal.
5500 même. Et les 500 premières sont parties, voilà, c'est ça que tu vas nous dire.
Les 500 premières mitrailleuses sont déjà parties et elles ont dû arriver à Katmandou autour du lundi 16 décembre. Alors,
ça fera un joyeux feu d'artifice.
Pour conclure, j'ignore comment on dit merci Père Noël en népalais, mais j'espère que ça se dit vite, afin que les dissidents népalais aient tout de même le temps de manifester un minimum de gratitude avant de se faire truffer la gencive avec des douilles bien de chez nous. Voilà, joyeux Noël à tous et à toi, Olivier.
Oui, moi, je vais parler aussi et du gouvernement et de Vincent de Crolly et de la motion pure et simple, etc. Parce que, vous l'avez remarqué, on est en campagne électorale et figurez-vous que ils ont le nez creux, les Verts, en Belgique. Ils nous ont confié, à nous, Alter Echo, leur campagne électorale et donc on est chargé de propager le message pour faire retourner Écolo et Agalève au gouvernement. On va tout de suite commencer avec un petit texte de Pierre Pierrard, sympathique animateur de l'Association des médecins contre la guerre nucléaire, qui n'est pas content du tout non plus. C'est un texte qui a circulé un peu partout et qui a notamment été publié aussi sur Indymedia et qui parle de la position équivoque d'Écolo et d'Agalef ces jours-ci. Alors, on a déjà entendu ce que nous disait Nicolas à propos de la politique en matière de réfugiés. Et là, Pierre Pierrard s'énerve parce que Vincent de Crolly, ex-député écolo devenu indépendant, a interpellé le 21 novembre 2002 le gouvernement pour qu'il respecte le traité de non-prolifération nucléaire et qu'il renvoie les bombes nucléaires de Clanebrogue à leurs propriétaires, les États-Unis. Les mandataires écolo et Agalef qui s'étaient pavanés à Clanebrogue le 5 octobre lors du bomb spotting, où le but est de réunir beaucoup de monde, des gens qui s'appellent eux-mêmes les inspecteurs civils pour justement vérifier si ces fameuses bombes sont là. Donc les Verts se sont pavanés à Clanebrogue pour protester contre la présence de ces armes nucléaires.
Ils ont manifesté un engagement physique et médiatique, genre on se mobilise contre
médiatique,
la guerre nucléaire.
Surtout, effectivement. Médiatique. Eh ben, ces gens-là, ils ont voté à l'unanimité, sauf une abstention d'un député Agalef, Peter Van Hout. Ils ont voté à l'unanimité avec les autres partis de la majorité pour la motion pure et simple qu'on retrouve ici, qui dans le jargon parlementaire signifie on classe, on ne prend pas en considération l'interpellation et on passe au point suivant de l'ordre du jour.
Donc quand on ouvre une séance, un petit rappel technique, quand on ouvre une séance, le président doit évoquer devant les parlementaires les questions qui lui auraient été remises, des interpellations auprès de ministres. Et il y a différents statuts dans ces motions. Et il y a la motion pure et simple qui, hiérarchiquement, passe toujours en premier lieu. Mmh. Donc, si le président de la Chambre a dans les mains une motion pure et simple, il demande le vote de la motion pure et simple. Et elle est systématiquement votée puisqu'elle émane de la majorité aussi parlementaire. Et donc, dès qu'il y a des débats ennuyeux, la motion pure et simple apparaît. Ça permet aux parlementaires, notamment écolos, qui ont une allure de dangereux opposants politiques devant les caméras, d'éluder complètement le débat dans ce qui devrait être le cœur de la vie démocratique de la Belgique.
Et de leur opposition aux choses auxquelles ils ne sont pas d'accord au sein du gouvernement.
Voilà, donc énorme farce dont on ne vous avait pas assez parlé.
Voilà, et donc le score en faveur de cette motion d'irresponsabilité, comme dit Pierre Pierrard, donc en l'occurrence cette motion pure et simple, digne de Ponce Pilate, fut 82 oui, dont les députés écolo et Agalef, un non de Crolly, et une abstention, dont on a déjà parlé, de la part du député Agalef, Peter Van Hout. Belle hypocrisie de l'Assemblée nationale, dont le gouvernement a signé le traité de non-prolifération, et trahison d'Écolo et Agalef, qui dans leur programme électoral demandaient l'évacuation des bombes de Clanebrogue, dont personne ne sait officiellement si elles sont là ou pas, qui représentent un arsenal d'environ 10 exemplaires, dont la puissance destructrice globale est supérieure à 100 fois la bombe d'Hiroshima. Alors, Pierre Pierrard poursuit, que Louis Michel ait proposé de prendre la tangente pour éviter de prendre une position délicate vis-à-vis des États-Unis et de l'OTAN, et contraire au passage à l'opinion générale de son parti, ça, on le comprend facilement, mais que les Verts du Nord et du Sud adoptent la même attitude, voilà qui laisse rêveur et perplexe. On peut naturellement présumer que d'une part, les incartades parfaitement justifiées de Vincent de Crolly aient contribué à leur inamical désengagement, et que d'autre part, les Verts, fortement intégrés au pouvoir, n'ont pas voulu engager un combat déstabilisant pour le gouvernement, et peu rentable sur le plan électoral, et de toute façon perdu d'avance. Manifestement, les Verts mettent beaucoup d'eau dans leur vin afin de pouvoir être acceptés dans le futur gouvernement. La déclaration commune écolo à Galève du samedi 7 décembre 2002 est à ce propos très évidente. En voici deux exemples. L'amendement du point sur la coopération au développement aurait voulu que les 0,7% du PNB de la norme budgétaire soit atteint en 2005 et non en 2010. C'est un des chevaux de bataille de tout ce qui est vert un peu partout dans le monde et en particulier en Europe. C'est d'atteindre un jour les fameux 0,7% du PNB préconisés par les Nations Unies. Donc, l'idée c'était de l'atteindre en 2005 et plutôt qu'en 2010. Et ben, cet amendement a été rejeté pour des raisons de réelle politique par les Verts. Ce qui semble peu crédible si l'on veut réellement augmenter l'aide aux pays en voie de développement, puisqu'en demandant 0,7 pour 2005, on aurait pu espérer 0,55 et éventuellement atteindre ce fameux 0,7 en 2010. Mais non. L'autre déclaration pleine de bonnes intentions concernait également la politique de paix. Il s'agissait encore de Kleine Brogel avec naturellement le vœu pieux en faveur du retrait des bombes. L'amendement déposé demandait que l'évacuation des armes nucléaires puisse se réaliser au plus tard le 31 décembre 2005, soit plus ou moins en fin de prochaine législature. Eh ben, cet amendement était rejeté, en d'autres termes remis au calendrier grec, exactement comme pour les engagements de désarmement nucléaire annoncés périodiquement par les 5 puissances nucléaires officiellement reconnues par le traité de non-prolifération nucléaire et conclu Pierre Pierrard, l'enfer est pavé de bonnes intentions. La voie de l'enfer plutôt est pavée de bonnes intentions.
Quand tu comptes les votes, ça me fait penser à la même histoire suite à la petite l'histoire de la petite Tabitha qui avait donc été incarcérée 2 mois puis expulsée sous le couvert de notre ministre de l'Intérieur. Vous vous souvenez peut-être d'Anne-Marie Lizin. surexcité devant les caméras, passé au JT, tout scandalisé par cette histoire. Eh bien, le jour...
Dès qu'il y a une caméra, elle est très agitée.
Le jour où il a fallu choisir entre parlementaires si on allait, oui ou non, demander à Duquesne de s'expliquer par rapport à cette affaire, eh bien, le groupe PS a voté à l'unanimité en faveur de la motion pure et simple, donc de l'évacuation du débat.
Et donc, y compris Anne-Marie Lisa. Ah là là. Bon, on ne va pas se quitter sans que je vous parle du Bruxellazo. Les 19, 20 et 21 décembre prochains,
à vos agendas.
Des journées mondiales d'action en solidarité avec les révoltes populaires qui se sont déroulées en Argentine il y a un an. Donc le 19 et 20 décembre 2001, le peuple argentin est sorti dans la rue. Plus d'un million de personnes se sont retrouvées à la Plaza de Mayo pour manifester leur mécontentement, alors que le président avait déclaré l'état de siège. Et ces journées ont marqué l'histoire de l'Argentine. Et un an après, donc toute l'Argentine fête ça, mais il y a un appel à ce que il y ait des fêtes de solidarité, des actions de solidarité aussi dans le monde entier. Les 20 et 21 décembre, alors que des dizaines de milliers d'Argentins seront dans les rues pour fêter un an de révolte, des actions et événements seront menés partout dans le monde en solidarité avec le peuple argentin.
Où est-ce qu'on peut avoir des infos sur
ça ? On pourrait vous en parler très longuement parce qu'il y a énormément de choses à en dire, mais justement. On peut avoir de l'information, notamment sur Radio Campus. J'ai fait une liste là. Je vous retransmets une liste. Demain, jeudi 19 décembre, il y aura sur Radio 601.9 FM l'émission Antidoxa entre midi et 13h30, qui sera rediffusée le vendredi 20 sur Radio Panique 105.4 à 10h. Ainsi que c'est apparemment tout. Je pensais qu'elle passait sur Campus aussi. Non, c'est pas le cas. Sinon, Radio Air Libre en parlera donc demain jeudi de 17 à 20h en espagnol.
Radio Air Libre, c'est le 87.7.
Exact. Vendredi le 20 sur Radio Air Libre toujours à partir de 18h. Samedi de 9 à midi sur Radio aussi. En espagnol également, le même jour de 15 à 17 heures sur Radio Air Libre 87.7 et encore de 19h à 19h30 décidément, là ce sera en espagnol. Et puis le dimanche 22 sur Radio Campus, il y aura Campus Latino d'une part entre 11 et midi et entre midi et demi et 13h et puis aussi Radio Air Libre toujours de 17h à 17h30 en espagnol et puis le lundi 23 toujours sur Air Libre à partir de 22h décidément. Écoutez Radio Air Libre, Radio C, Radio Panique et Radio Campus plus d'infos et regardez aussi le site RISBAL www.collectif.net/RISBAL RISBAL pour avoir des infos sur tout ce qui se déroulera. Je peux vous dire qu'ici en Belgique et notamment à Bruxelles, il y a une soirée de soutien au projet de Radio Barricada, ça c'est plutôt à Louvain-la-Neuve. Ça se passe au squat de la baraque, 111 rue de la baraque à Louvain-la-Neuve. Et je ne sais pas si c'est jeudi ou vendredi, puisque c'est vendredi 19 décembre que c'est annoncé. Or, le 19 décembre est un jeudi. Donc allez-y, et demain soir, et après-demain soir, vous verrez bien quand ça a lieu. Ensuite, il y aura une action le samedi 21 décembre. Il s'agit de diffuser de l'information et de créer un espace de parole de type assembléaire dans un lieu pour le moins incongru, là où on ne nous attendra pas, est-il écrit, pour discuter des enjeux qui se nouent actuellement en Argentine et donc éventuellement ici. Rendez-vous à 14h30 rue des Chartreux, 43 à 1000 Bruxelles. C'est l'adresse de City Mind, une association tout à fait sympathique. Et on a déjà dépassé le temps, donc générique.
Ouais, joyeux Noël à tout le monde, à bientôt et à dans 15 jours, puisqu'on ne sera pas là la semaine prochaine.
Dans,
ni
oui,
la semaine 3
semaines,
d'après.
C'est rendez-vous donc le 8 janvier.
Voilà.
Et donc on vous le disait, Alter Echo prend quelques vacances bien méritées. De toute façon, si on avait dû faire l'émission les deux prochains mercredis, ça aurait été le 25 décembre et le 1er janvier. Peu d'auditeurs frais à ces heures-là et ces jours-là. Et pour les rediffusions, on aurait eu du mal à les assurer. Donc mieux vaut que tout le monde se repose et rendez-vous en pleine forme le 8 janvier, plein de bonnes résolutions. Si vous n'avez pas entendu cette émission en entier ou si elle était si bonne que vous voulez la réécouter, n'oubliez pas les rediffusions vendredi après-midi sur 107.2 Radio Campus à 14h et mardi matin sur Radio Panique 105.4 FM à Bruxelles. Et puis toujours le site internet que Nicolas mettra bientôt à jour, www.collectif.net/alterecho. En un mot et avec CH, voilà, bonne fête à tous, amusez-vous bien et en forme le 8 janvier.